العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 30 من شهر ربيع الأول من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 20 من شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 8 décembre 2018 et l'on se réunit pour le 20e cours de l'étude du livre Al-Ubudiyya, la servitude de l'imam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde une grande récompense. Nous sommes en train de lire les passages où l'auteur, rahimahullah, nous montre les deux catégories parmi les catégories de biens qui sont possédés par la personne, l'argent, les biens et tout ce que l'on possède. Il nous a dit dans ces passages que ces biens se divisent en deux. Ceux dont nous avons nécessairement besoin, notamment pour manger, boire, se nourrir, se vêtir, se déplacer, se loger, et ceux dont nous n'avons pas besoin. Puis il a parlé de l'état dans lequel doit être le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, face à ses biens dont il a besoin et ceux dont il n'a pas besoin. Et nous sommes arrêtés dans cette deuxième partie. La partie des biens dont il n'a pas besoin. Où l'auteur, rahimahullah, a dit qu'il ne convient pas à ce que le serviteur attache son cœur à des biens dont il n'a pas besoin. Car dès lors que son cœur se rattache, il en devient l'esclave. Peut-être même qu'il s'en remettra à ces biens-là, au lieu de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, dans ce contexte, فَهَذِهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَلِّقَ قَلْبَهُ بِهَا فَإِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهَا صَارَ مُسْتَعْبَدًا لَهَا وَرُبَّمَا صَارَ مُعْتَبِدًا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ فَلَا يَبْقَى مَعَهُ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ. Il se peut même que cette personne qui s'attache à ses biens, dont elle n'a même pas besoin à la base, s'en remette à autre qu'Allah. Et alors, la réalité de la servitude, de l'adoration, disparaîtra d'une telle personne. وَلَا حَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ. Il en est de même pour la réalité de la confiance que l'on place en Allah, subhanahu wa ta'ala. بَلْ فِيهِ شُعْبَةٌ مِنَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Au contraire, une telle personne a en elle une des branches de l'adoration d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela, comme nous l'avons déjà dit, fait partie des catégories de polythéisme, de shirk, d'association imperceptible, dans lesquelles bon nombre de gens tombent, peut-être sans s'en rendre compte. C'est pour cette raison qu'il faut apprendre le tawhid pour l'appliquer et le shirk pour s'en sauver. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a donc divisé les biens en deux. Et souvenez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans le hadith dans lequel il a invoqué Allah azza wa jal contre une personne. Il a parlé de la personne qui est devenue l'esclave de l'or, de l'argent, de la soie et du velours. Cette personne qui a fait de cette vie d'ici-bas et des biens qui s'y trouvent un but en soi à atteindre, au point d'en oublier le but pour lequel elle a été créée, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit wa shu'batun min at-tawakkul 'ala ghayrillah. Et il y a en cette personne une branche de la confiance en autre qu'Allah. Wa hadha min ahqq an-nas bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة. Une telle personne est plus à même d'être concerné par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que périsse l'adorateur du dirham, l'adorateur du dinar, l'adorateur de la soie, l'adorateur du velours, dont nous avons eu le temps de parler. Voyez comment sont ces gens-là. Le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit, le croyant, lui, n'est pas distrait de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces choses mondaines. Allah azza wa jalla nous dit dans le verset « Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah » « Ô vous qui avez eu la foi, que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah. » « Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun » « Quiconque agit ainsi sera alors du nombre des perdants. » Et quand Allah azza wa jalla a fait les éloges des croyants, qu'a-t-il dit les concernant ? Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Des hommes qui ne sont distraits ni par les commerces, ni par le commerce, ni par la vente du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance, l'adoration sont des choses dirigées à Allah subhanahu wa ta'ala et nul autre que lui. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit وَهَذَا هُوَ عَبْدُ هَذِهِ الْأُمُورِ. Une telle personne est considérée comme étant un serviteur de ces choses-là. Un serviteur de ces choses-là auxquelles son cœur s'est attaché. فَلَوْ طَلَبَهَا مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا رَضِي وَإِذَا مَنَعَهُ إِيَّاهَا سَخِطُ. Une telle personne, si elle demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder, de lui faire des dons, si Allah subhanahu wa ta'ala lui accordait les dons que cette personne lui demande, elle se montrerait satisfaite. Mais si Allah azza wa jalla ne lui accordait pas ces dons, elle se montrerait, elle manifesterait une colère. C'est de ce hadith, c'est de cet état que nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith où il nous dit lorsqu'on lui donne, il est satisfait et quand il est privé, il est mécontent. Il est mécontent parce qu'Allah azza wa jalla ne lui donne pas. Et donc, sa colère et son amour ne sont pas rattachés à la colère et l'amour d'Allah azza wa jalla. Il n'aime pas ce qu'Allah aime. Il ne déteste pas ce qu'Allah déteste. Il aime ce que son âme aime. Il déteste ce que son âme déteste. Il n'agrée pas ce qu'Allah décide, ce qu'Allah veut. Subhanahu wa ta'ala. C'est la différence entre le serviteur d'Allah Azza wa Jal et le serviteur de l'argent, le serviteur de cette dunya. Quant au serviteur de l'argent, nous dit le Cheikh Salih al-Fawzan, il en est l'esclave. S'il demande ces choses-là à Allah Azza wa Jal, il est satisfait quand Allah lui donne, mécontent quand Allah l'en prive, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit, et cela est l'indice de la servitude pour la dunya. C'est cela qui montre, et qui est un indice, que le serviteur est un serviteur de cette dunya, et non pas d'Allah tabaraka wa ta'ala, car il a rattaché, nous dit le cheikh, sa satisfaction et son mécontentement à l'acquisition ou la privation des biens qu'il recherche. Et la deuxième personne, c'est le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le serviteur d'Allah, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, « Wa innama abdullah man yurdihi ma yurdillah » Le serviteur d'Allah n'est que celui qui est satisfait de ce qui rend Allah satisfait. Ce qui plaît à Allah, c'est ce qui lui plaît. Wa yusrituhu ma yusritullah. Le met en colère, ce qui met Allah en colère. Wa yuhibbu ma ahabbahu Allah wa rasuluh. Il aime ce qu'Allah et son messager aiment. Wa yubghidu ma abghadahu Allah wa rasuluh. Il déteste ce qu'Allah azza wa jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam déteste. وَيُوَالِي أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَيُعَادِي أَعْدَاءَ اللَّهِ. Il fait alliance avec les alliés d'Allah, il se désavoue les ennemis d'Allah. وَهَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. Et c'est un tel individu qui a complété sa foi. Qui est celui qui a complété sa foi? C'est celui qui a aimé Allah tabaraka wa ta'ala, bien évidemment, et tout ce qu'Allah aime. C'est celui qui a détesté tout ce qu'Allah déteste. Son amour dépend de l'amour d'Allah et en découle. Son mécontentement dépend de la colère d'Allah azza wa jal et en découle. C'est lui le véritable serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui aura complété sa foi. Car il est en accord avec ce qu'Allah aime et ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme a fait le hadith, « Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa man'a lillahi faqad istakmala l'iman. » Quiconque éprouve de l'amour pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, prive pour Allah, aura alors complété sa foi. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit cette personne qui a ces qualités. Il la décrit comme ayant complété sa foi à partir du moment où son amour va vers ce qu'Allah aime, son mécontentement va vers ce contre quoi Allah azza wa jal est en colère. C'est une telle personne qui a complété sa foi. On voit donc que cette personne n'a pas un amour qui dépend de cette vie d'ici-bas, qui dépend des biens, qui dépend d'une personne, qui dépend d'elle-même, de sa personnalité. Non, au contraire, son amour suit son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, فَقَالْ أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ. L'anse de la foi la plus solide est l'amour pour Allah et l'aversion ou la détestation pour Allah. Cela montre que dans la foi, l'amour pour Allah Azza wa Jal, la détestation pour Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de très important, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Awthaqu 'ura al-iman » l'anse de la foi la plus solide. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Et quiconque mécroit au tagout, de manière générale, c'est un terme utilisé pour désigner, de manière générale, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Quiconque mécroit au tagout, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ et a foi en Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Il se sera alors cramponné à l'anse la plus solide. Lance la plus solide, comme un câble auquel tu attaches tes mains de peur de tomber, de peur de... Lance la plus solide. L'anfissam alaha, à lance la plus solide qui ne se détruit pas. Wallahu sami'un alim. Et Allah est certes audient et parfaitement connaisseur, subhanahu wa ta'ala. Ce que l'on appelle al-urwatu, c'est-à-dire lance, c'est ce sur quoi l'homme ou à quoi l'homme s'agrippe lors du danger, comme nous l'avons dit. Par exemple, celui qui craint de s'écrouler, d'être écrasé, de tomber, il va se rattacher à quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui mécroit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui a foi à Allah uniquement, s'est attaché à l'anse la plus solide, celle qui le maintiendra grâce à Allah de tout danger de l'égarement du cœur, pour le shirk, pour le kufr et pour tous les égarements et les éloignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous dit c'est l'anse la plus solide, car il peut en avoir qui ne le sont pas, qui ne sont pas solides, qui se coupent, qui ne tiennent pas, mais l'anse la plus solide, qui ne se coupe pas, c'est la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, et la mécréance, le reniement de tout autre qu'Allah, de l'adoration de tout autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, وفي صحيح عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Il existe trois choses. Quiconque les réunit en lui aura goûté à la saveur de la foi. Il dit ensuite من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Celui qui a aimé Allah et son messager plus que quiconque. Deuxièmement, وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Et celui qui aime une personne en ne l'aimant que pour Allah uniquement. Troisièmement, وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Et celui qui déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, c'est-à-dire initialement si la personne est née musulmane, ou après avoir été mécréant si la personne s'est convertie. Dans tous les cas, Allah l'en a sauvé. Il déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Ce hadith-là, nous dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah, est une base de l'islam. Aslun, c'est une base parmi les fondements de l'islam. Et l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, dans un autre passage, dans un autre écrit, que dans ce hadith-là, nous voyons la base essentielle qui est aimer Allah azza wa jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout autre amour, et ce qui en découle, qui sont les deux choses. La première, c'est d'aimer une personne en ne l'aimant que pour Allah. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes que pour Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui implique que plus la personne est pieuse, plus elle est aimée d'Allah, plus tu l'aimes. Plus la personne désobéit, plus elle est détestée Allah azza wa jal, plus tu la détestes. Jusqu'à arriver à un niveau où tu aimes cette personne plus que n'importe quel autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un autre niveau où tu détestes cette personne comme tu ne détestes pas une autre. Ash-shaytan, par exemple, les semblables. Donc l'amour varie, l'amour que tu éprouves varie en fonction de la droiture ou l'égarement de cette personne. Tayyib. Cette question-là, en réalité, a beaucoup de points, mais le but n'est pas ici de s'étaler sur tout cela. Et la troisième chose, c'est le fait de détester, de revenir à la mécréance, après en avoir été sauvé par Allah Azza wa Jal, comme on détesterait être jeté dans le feu. Et il est triste de voir qu'il arrive qu'Allah Azza wa Jal guide des gens dans sa noble religion, mais qui revient sur leurs pas et la délaisse. Et une des grandes causes de cela, c'est l'ignorance, les mauvaises fréquentations et le fait de ne pas rattacher son cœur à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et pour cette raison, as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, certains d'entre eux disaient, tu dois te sentir envers Allah azza wa jal comme se sent celui qui est sur le bord de la noyade et qui est en train de demander à Allah de l'en secourir, de l'en sauver. Comment il est? Tout son cœur est vers Allah. Il supplie Allah de toutes ses forces de le sauver, n'est-ce pas? Il dit, même quand tu es en situation d'aisance, c'est cela que tu dois ressentir envers Allah. Tu dois te sentir dans le besoin d'Allah. Et ce n'est pas pour rien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répétait et répétait encore « Allahumma ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. » « Oh Allah, toi qui fais bouleverser les cœurs, maintiens mon cœur dans ta religion. » Sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit que la foi a une saveur. Mais tout croyant ne trouve pas en lui cette saveur et ce délice. Sauf quand la foi s'est installée, s'est ancrée, enracinée dans le cœur. ce qui démontre que cela demande du travail. Le cœur se travaille, la foi elle se travaille, elle se renouvelle, elle se maintient, elle se raffermit, elle se renforce. Il ne suffit pas de prononcer 2-3 paroles pour penser que tu es au niveau recherché, non. La foi elle se travaille jusqu'à arriver à en trouver la saveur. Et combien parmi les salafs ont des paroles dans ce sens où ils ont éprouvé des difficultés à réformer leurs âmes, à se corriger, à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Un qui dit pendant 20 ans, il a lutté contre son âme pour prier la nuit et il en a trouvé la saveur pendant 20 ans après. Ce qui fait combien? 40 ans. Pendant 20 ans, il a combattu son âme pour s'habituer, pour maintenir cela. Et à partir de la 21e année, il en a senti la saveur. Qu'est-ce que tu comprends de cela? Tu dois travailler. Le problème est qu'il arrive que parfois la personne pense que la foi, elle vient d'un coup. Donc quand elle voit que cette saveur recherchée n'arrive pas, elle s'empresse. Et elle dit, j'ai essayé, ce n'est pas venu. Et puis, Shaitan joue avec cette personne et lui met des wasawis. Peut-être qu'Allah ne t'aime pas, peut-être qu'Allah veut te punir, peut-être qu'Allah ne veut pas que tu te rapproches de lui, peut-être que. Et tu vois cette personne venir te voir et te dire, je pense être hypocrite, je pense que ma foi n'est pas sincère. Non, pas du tout. Shaitan joue avec toi. Et cette dunya, c'est un combat contre ton âme, tout simplement. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite cela. Ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: فَهَذَا وَافَقَ رَبَّهُ فِيمَا يُحِبُّهُ وَمَا يَكْرَهُهُ فَكَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَحَبَّ الْمَخْلُوقَ لِلَّهِ لَا لِغَرَضٍ آخَرٍ فَكَانَ هَذَا مِنْ تَمَامِ حُبِّهِ لِلَّهِ فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. Une personne décrite par les qualités mentionnées dans les hadiths, qui aime Allah plus que tout, qui aime quelqu'un uniquement pour Allah et qui déteste retourner à la mécréance, une telle personne est en accord avec ce qu'Allah aime et déteste, subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons développé tantôt. Il dit ensuite, Allah, Azza wa Jalla et son messager sont ainsi préférés, plus aimés pour cette personne que quiconque. Quand cette personne a aimé une créature, elle ne l'a aimée pour aucun autre but qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cela fait partie de l'amour qu'elle a pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car aimer ce que ton bien-aimé aime montre ton réel amour pour ton bien-aimé. Vous avez compris? Aimer ce qui est aimé par ton bien-aimé montre que tu l'aimes vraiment, ce bien-aimé. Ton bien-aimé, Allah tabaraka wa ta'ala, aimer ce qu'Allah aime montre que tu aimes vraiment Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si la personne aime les prophètes d'Allah, azza wa jal, les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'ils ont mis en pratique les choses aimées par Allah, non pas pour une autre raison, alors cette personne-là les aura véritablement aimés pour Allah et pour rien d'autre. Subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont le plus en droit de recevoir notre amour sont les prophètes d'Allah. Alayhim as-salatu was-salam. Ils doivent être aimés fortement. La personne doit éprouver un réel plaisir à les mentionner, à parler d'eux, à lire leur vie, à étudier leurs faits, leurs actions, leur histoire. Tout comme le musulman doit aussi aimer toute personne qui suit les prophètes parmi les croyants. peu importe l'époque. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Après avoir cité les catégories des sahaba qui sont Al-Muhajirun ou Al-Ansar, les habitants de la Mecque et ceux de Médine qui les ont accueillis lors de l'émigration, après les avoir cités et développés quelques-unes de leurs caractéristiques, il parle de tous les croyants qui viendront après. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Et ceux qui vinrent après eux, ou ceux qui viendront après eux. يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Disent, ô Seigneur, accorde-nous ton pardon, ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi parmi nos frères. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Et ne mets aucune rancœur dans nos cœurs pour les croyants. Ô Seigneur, tu es certes tout miséricordieux, tu es compatissant et tout miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Al-Shir al-Fawzan nous dit, on voit ici dans ce verset que l'amour que l'on éprouve n'est pas réservé aux gens avec lesquels tu vis ou aux gens de ton époque. Mais c'est un amour que tu éprouves aussi, même pour ceux qui ont vécu avant toi, parmi les croyants, qui ont suivi les prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu aimes tout croyant sur terre, dès lors qu'il est croyant, dès lors qu'il adore Allah seul et sans associé, subhanahu wa ta'ala, et suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'indice que ta foi est véridique. L'amour pour Allah azza wa jal. Quant à ceux qui n'aiment que les gens de leur pays, nous dit le shir, que les gens de leur pays, on appelle cela al-unsuriya, le racisme. Et cela, le racisme, n'a absolument rien à voir avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a rien à voir avec les distinctions entre les races, les origines, les pays, à part le fait de pouvoir distinguer les personnes dans le sens de savoir d'où elles viennent, connaître peut-être leur culture, etc. Mais à part cela, ces choses-là ne sont pas des freins à la fraternité. La fraternité, elle passe avant cela. On ne dit pas, il vient de tel pays, il est donc comme ceci et comme cela. On ne doit donc pas l'aimer, même s'il est plus pieux que celui qui vient de ton pays. Ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Il n'y a pas de frontière dans la fraternité en Allah, subhanahu wa ta'ala, peu importe l'endroit d'où vient la personne. Et le racisme est quelque chose qui te touche dans ta foi si tu tombes dedans. Car le racisme va te pousser à détester des choses qui sont aimées pour Allah, des gens qui sont peut-être aimés pour Allah, des gens qui sont peut-être plus aimés chez Allah que toi, que tous les gens de ton village, de l'endroit d'où tu viens. Donc la distinction ne se fait que dans la foi. Allah Azza wa Jalla a dit « Inna akramakum inda Allahi atqakum » Le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est dommage de voir qu'il y a des divisions pour ce genre de choses. Où tu peux voir des personnes qui montrent à d'autres un amour en apparence, mais dès que ces autres personnes leur demandent, par exemple, leur fille en mariage, la réalité revient. Wallahu musta'an. Ça y est. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont aimés? Ils sont aimés en raison de leur obéissance à Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait que justement il n'y a pas de différence dans cette fraternité. C'est que la chose qui te pousse à aimer, c'est l'obéissance à Allah. Lui, il obéit à Allah. L'autre obéit aussi à Allah. Ils veulent entrer dans un paradis. Il n'y en a pas deux ni trois. Il n'y a pas le paradis pour tel pays et tel pays. Donc, ces gens-là doivent être aimés, peu importe leurs origines. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qad qala ta'ala, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah azza wa jalla a fait la mention d'un peuple qu'il aime. Allah Azza wa Jal aime ce peuple et qui aime Allah. Ce peuple aussi aime Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'il fera venir un peuple aimé d'Allah et aimant d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Dit, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera. Subhanahu wa ta'ala. Les gens du livre, à l'époque, ont prétendu aimer Allah. Ils ont dit, certains ont dit, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهُ وَأَحِبَّاءُهُ. Nous sommes les enfants d'Allah. Et nous en sommes les bien-aimés. Ou nous en sommes aimants. Nous aimons Allah, Azza wa Jal. Wal'iyadu billah. Qu'est-ce qu'Allah, Azza wa Jal, a répondu à ces gens-là? Il a révélé un verset surnommé par les savants Ayatul Mihna, le verset de l'examen, le verset du test, par lequel Allah va les tester. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qul, dis à ces gens-là qui prétendent aimer Allah, in kuntum tuhibbuna Allah, si vraiment vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi donc, yuhbibkum Allah, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés jusqu'à la fin du verset. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal les a éprouvés. Et c'est de cette façon que l'on voit la réalité ou la véracité de l'amour prétendu par la personne pour Allah. Celui qui dit aimer Allah Azza wa Jal, comme nous dit l'auteur, aimer la chose aimée par ton bien-aimé montre que tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah Azza wa Jal. Il a avec lui sa sunna et sa guidée, celui qui dit aimer Allah. Le prophète alayhi salat wa sallam, étant aimé par Allah, doit être aimé aussi. Sa sunna doit donc être aimée, elle doit donc être suivie. Celui qui vient et ne suit pas le prophète alayhi salat wa sallam, s'oppose à la sunna, son amour pour le prophète alayhi salat wa sallam est à voir ou à revoir. Et son amour pour Allah Azza wa Jal a aussi une défaillance à revoir. Les signes montrant l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire la véracité de l'amour du serviteur pour Allah Azza wa Jal. Premièrement, il y a la sincérité envers Allah. Celui qui aime Allah Azza wa Jal va être envers lui sincère dans son adoration. Il ne va œuvrer que pour lui. Pour cela, dans le verset, on voit Allah Azza wa Jal nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a parmi les gens certains qui prennent en dehors d'Allah des égaux en les aimant comme on aime Allah. Ils les aiment, ces égaux, ces divinités, comme ils aiment Allah. Ou alors, comme Allah est aimé par les croyants. Ces deux explications qui sont venues dans le tafsir. Certains ont dit, c'est-à-dire qu'ils aiment Allah, tabaraka wa ta'ala, d'un amour semblable et pareil à celui qu'ils ont aussi éprouvé pour Allah. Ils sont donc associateurs car ils ont partagé leur amour entre Allah Azza wa Jal et d'autres divinités. D'autres savants ont dit, non, il ne s'agit pas de ça, mais plutôt qu'ils ont éprouvé envers leur divinité le même amour que les croyants monothéistes ont éprouvé pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans les deux cas, quoi qu'il en soit, ces gens-là tombent dans le polythéisme. Wal'iyadu billah. Le deuxième indice montrant la véracité de l'amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car il a été envoyé à toute l'humanité pour Allah. Celui qui prétend aimer Allah Azza wa Jal, puis mécroit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un menteur dans ses prétentions. Pareil, celui qui prétend aimer Allah Azza wa Jal et ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'est pas ignorant, alors ses prétentions sont fausses et à revoir. Troisièmement, le fait de faire passer ce qu'Allah aime et son prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ce que la personne aime. Et ça, on le retrouve dans le verset qu'on avait déjà lu, où il y a ce que l'on appelle al-mahabbu thamaniya, les huit choses bien-aimées de la personne. Il y a notamment les parents, les enfants, les frères, épouses, les gens de la tribu, les biens acquis, le commerce dont on craint, la faillite, les habitations. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont aimées naturellement par la personne. Mais voyez qu'Allah Azza wa Jalla dans le verset nous cite toutes ces choses-là et nous dit qu'ici elles sont plus aimées qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que la lutte dans la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors attendez. C'est-à-dire attendez la punition, attendez le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit ensuite, يَأْمُرُ بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَنْهَى عَمَّا يُبْغِضُهُ اللَّهُ وَيَفْعَلُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُخْبِرُ بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ التَّصْدِيقَ بِهِ فَمَنْ كَانَ مُحِبًّا لِلَّهِ لَزِمَ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ فَيُصَدِّقَهُ فِيمَا أَخْبَرَ وَيُطِيعَهُ فِيمَا أَمَرَ وَيَتَأَسَّى بِهِ فِيمَا فَعَلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ فَعَلَ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ فَيُحِبُّهُ اللَّهُ. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne ce qu'Allah aime. Il nous interdit ce qu'Allah déteste. Il fait ce qu'Allah aime. Il nous informe, alayhi salatu wassalam, de ce dont Allah aime voir le serviteur, ou ce à quoi Allah aime voir le serviteur croire. Celui qui aime Allah tabaraka wa ta'ala devra alors suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il devra croire à ses informations, obéir à ses ordres, le prendre en modèle. Celui qui agit de cette façon aura véritablement fait ce qu'Allah aime. Il sera donc véritablement aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour être suivi. Il ne suffit pas de dire que la personne aime Allah, mais cette personne doit suivre le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Elle doit suivre sa sunna, obéir à ses ordres. Quand un hadith est authentique, elle doit y croire, elle ne doit pas être troublée par le doute. Ça, c'est l'amour d'Allah au final. Dans la base, c'est ça l'amour d'Allah. Car l'amour d'Allah Azza wa Jal implique d'aimer tout ce qu'Allah aime, de croire aux informations révélées par Allah dans le Coran ou dans la Sunna. Dans la Sunna donc, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des mesures et des balances qui nous permettent de tester notre véracité dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit aimer le prophète alayhi salat wa sallam, cela va se voir dans des signes qui apparaîtront en lui. La première chose, c'est son suivi. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Son suivi. Aussi, l'obéissance à ses ordres. Et le fait de le dévancer à quiconque. Sallallahu alayhi wa sallam. De le prendre pour modèle, alayhi salatu wassalam, et de n'adorer Allah que d'après sa sunna. Allah Azza wa Jal nous a créé pour l'adorer, mais il ne nous a pas laissé dans nos réflexions décider la manière de l'adorer, la manière de prier, la manière de l'invoquer. Comme on l'a vu dans des passages précédents, la personne qui dit « j'ai essayé, je m'y sens bien », le goût, la saveur. Non, ça, ce n'est pas dans l'islam. Pourquoi un prophète a été envoyé, alayhi salatu wassalam? Pourquoi a-t-il tant fourni d'efforts? Pourquoi a-t-il risqué sa vie? Pourquoi les compagnons ont péri? Pourquoi ils ont émigré? Ils se sont séparés de leur famille? Ils ont délaissé tous les biens qu'ils possédaient et les richesses pour devenir pauvres? besogneux pour qu'après tu arrives toi et dises j'ai essayé, je m'y sens bien, j'ai goûté, c'est une belle adoration. Non. Allah Azza wa Jalla les a envoyés pour qu'ils soient suivis, pour qu'ils soient pris en modèle. Car eux-mêmes n'ont rien apporté de leur propre réflexion, mais ils n'ont fait que transmettre ce qu'Allah a prescrit et légiféré. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: فَجَعَلَ اللَّهُ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ عَلَامَتَيْنِ اتِّبَاعَ الرَّسُولِ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجِهَادَ حَقِيقَتُهُ الْإِجْتِهَادُ فِي حُصُولِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَمِنْ دَفْعِ مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ الْآيَةُ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a montré deux signes reconnus chez ceux qui aiment vraiment Allah. Quels sont ces deux signes? Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la lutte dans sa voie. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « al-jihad fi sabili » ? La lutte dans sa voie. Il nous dit, et la réalité de ce que l'on appelle « al-jihad » en arabe, la lutte dans sa voie, c'est le fait de fournir des efforts. Le fait de fournir des efforts pour faire ce qu'Allah aime comme foi et comme bonnes actions. Et pour repousser tout ce qu'Allah déteste, comme mécréance, comme perversion, comme désobéissance. En arabe, on appelle ça « jihad », c'est-à-dire un combat que tu fais. Un combat que tu fais contre ton âme. Un combat que tu fais contre la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui jeûne, elle est dans un jihad. Parce qu'elle combat son âme. Elle a tellement faim et soif, mais elle combat son âme. Elle s'abstient de manger et de boire pour Allah. Elle fait un jihad pour Allah. Subhanahu wa ta'ala, la personne qui a des habitudes qui sont mauvaises doit combattre son âme pour délaisser. C'est ça que ce mot veut dire, car il vient du terme juhd, et juhd veut dire effort, et jihad veut dire faire un effort. Ici, il s'agit de faire un effort pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ce qu'il aime, pour détester ce qu'il déteste, et délaisser, pardon, ce qu'il déteste, subhanahu wa ta'ala, comme le fait de faire passer les choses bien aimées d'Allah Azza wa Jal avant les choses que notre âme aime, le fait de délaisser les choses que notre âme aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça entre aussi dans cela le fait de combattre Shaitan. Le fait d'ordonner le mal, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et ainsi de suite. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: فَتَوَعَدَ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ بِهَذَا الْوَعِيدِ. Allah Azza wa Jalla a menacé dans ce verset celui dont les biens, les proches, lui sont plus chers qu'Allah et son messager, et que le fait de faire des efforts dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ثبت عنه في الصحيح انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, l'un d'entre vous n'atteindra la foi complète que lorsqu'il me préférera à son fils, son père et à l'ensemble des gens. Et cela demande un djihad, demande un combat de préférer de contre ton âme, de préférer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également dans notre hadith, sahih, anna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala lahu ya Rasulallah, Wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Omar a dit au prophète alayhi salatu wassalam, au messager d'Allah, par Allah, tu m'es plus aimé que toute chose sauf mon âme, sauf ma personne. Qu'est-ce que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faqala la ya Umar, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Non, ô Omar. C'est-à-dire, tu n'as pas encore atteint la vraie foi complète jusqu'à ce que tu m'aimes plus que toi-même. Faqal, fa wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Omar radiallahu anhu a dit, je jure par Allah que désormais, je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Pourquoi? Parce que Omar al-Khattab radiallahu anhu, c'est quelqu'un qui veut plaire à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu n'as pas encore atteint cette foi-là, cette foi complète. Et Omar est un compagnon, il veut l'atteindre cette foi. Et le compagnon, le croyant, quand on lui dit qu'il y a quelque chose qui plaît à Allah, azza wa jal, il n'a pas besoin de réfléchir parce qu'il aime ce qu'Allah aime. Il déteste ce qu'Allah déteste. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pas encore, jusqu'à ce que tu m'aimes, plus que tu ne t'aimes toi-même, Omar a compris, radiallahu anhu, que cela fait partie de l'amour d'Allah. Donc il n'a pas besoin d'hésiter. S'il en est ainsi, alors je t'aime plus que moi-même. Sallallahu alayhi wa sallam. فَحَقِيقَةُ الْمَحَبَّةُ الْمَحَبَّةِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِمُوَالَاتِ الْمَحْبُوبِ وَهُوَ مُوَافَقَتُهُ فِي حُبِّ مَا يُحِبُّ وَبُغْضِ مَا يُبْغِضُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْإِيمَانَ وَالتَّقْوَى وَيُبْغِضُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ. L'imam rahimahullah nous dit ensuite, la réalité de l'amour ne sera complète, que lorsque l'aimant va s'allier avec l'aimé. Lorsque l'aimant va suivre l'aimé, va s'allier avec lui. Il va être en accord avec lui, au point d'aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Et Allah aime la foi et la piété, tout comme il déteste la mécréance, la perversité et la désobéissance. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحُبَّ يُحَرِّكُ إِرَادَةَ الْقَلْبِ فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. Il est connu que l'amour éprouvé dans le cœur fait naître dans ce cœur des envies de faire des choses. Lorsque tu aimes des choses et que tu as ce sentiment dans le cœur, ce cœur, à cause de ce sentiment, va avoir envie de faire des choses. N'est-ce pas? Lorsque tu aimes ton enfant, dans la vie de tous les jours, si tu aimes ton enfant, tu aimes ton épouse, tu aimes ton frère, tu aimes ton père, tu aimes ta mère, cet amour que tu as pour cet autre va te pousser à être bienfaisant envers cet autre, par exemple. Qu'est-ce qui te pousse à le faire? C'est l'amour que tu éprouves. Il nous dit, il est connu que l'amour dans le cœur fait naître des envies. Chaque fois que plus l'amour dans le cœur grandit, plus le cœur a envie de faire des choses. Il nous dit, فَإِذَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ تَامَّةً اِسْتَلْزَمَتْ إِرَادَةً جَازِمَةً فِي حُصُولِ الْمَحْبُوبَاتِ. Dès lors que l'amour est complet, cela va faire naître dans le cœur une envie véridique de faire des choses bien aimées. Et subhanallah, tu peux trouver une personne qui est physiquement en très bonne santé, qui fait des choses dans la foi, dans les bonnes actions, que la personne, une personne qui n'est pas, pardon, en très bonne santé, tu peux la voir faire des choses que la personne en bonne santé n'arrive pas à faire. Parce que le corps suit le cœur. Quand le cœur est fort, le corps l'est aussi. Quand le cœur est faible, le corps l'est aussi, même si l'apparence est corpulente. Même si l'apparence est forte. Si le cœur est faible, le corps est faible aussi. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, il y a dans le corps, un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps le sera aussi. S'il est perverti, tout le corps le sera aussi. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit, je vais vous donner un exemple très simple dans la vie de tous les jours. La prière. Il nous dit, des fois, tu vois une personne âgée, qui n'est pas dans la meilleure santé, qui a peut-être du mal à marcher. Mais dans le cœur, il y a l'amour des cinq prières. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que cette personne ne manque pas une prière. Elle vient à pied, elle marche, elle parcourt peut-être une longue distance, et peut-être que cette longue distance lui est contraignante, mais pourtant elle le fait, elle est là. D'autres personnes qui sont, elles, en bonne santé, qui ont peut-être même des moyens pour se déplacer, que la première n'a pas, n'arrive pas à maintenir ses prières. D'où vient cela? Est-ce que cela vient du corps? Souvent, la personne te dit, je suis trop fatigué. C'est le cœur qui est fatigué. Wallahi, dans les adorations, quand on n'arrive pas à faire des adorations, ça n'a rien de dire, j'ai été au travail toute la journée, je suis fatigué. C'est le cœur qui est fatigué. C'est ça qu'il est dit de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. Abdelaziz ibn Baz est un grand savant. C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans l'adoration. C'est quelqu'un qui n'a pas laissé une minute de sa vie passer sans adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Il priait toutes les nuits, il enseignait toute la journée, il répondait aux questions de toute la terre, toute la journée, faisait des grandes recherches, et avec tout ça, il était aveugle. Et il fait partie des plus grands savants de cette époque, sans le moindre doute. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, quelqu'un lui demande, mais comment as-tu fait? Moi, je ne trouve pas de baraka dans mon temps. Je n'arrive pas à faire autant de choses que tu. Comment tu fais pour faire tout ça dans ta journée? Comment se fait-il? Il y a des gens, dans une journée, ils ont tellement de bénédictions d'Allah Azza wa Jal qu'on dirait qu'Allah leur a donné 3 jours. D'autres, qui ont 3 jours, qui sont passés comme 1 heure, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de baraka. On lui a demandé, mais comment tu es fait? Tu fais? Et lui répondait, de s'occuper d'autre chose, de poser une autre question. Poser une autre question. La personne a insisté jusqu'à ce que Cheikh a dit tout est dans le cœur. Tout est dans le cœur. Si ton cœur il aime, tout le reste va suivre. C'est pour ça que c'est le cœur qu'il faut revoir tout le temps. C'est le cœur qu'il faut aller chercher, c'est le cœur qu'il faut corriger tout le temps. Des fois on est là, on s'arrête sur des causes apparentes. Parce que j'ai pas mis le réveil, parce que ceci, parce que cela. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il rentre de l'hôpital, malade. Son épouse, par pitié pour lui, elle change le réveil. Elle le met à l'heure du Fajr, elle le dérègle. Il n'est plus à l'heure de la prière de la nuit. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il se réveille la nuit, automatiquement, sans réveil. Et il demande à son épouse pourquoi le réveil n'a pas sonné. Subhanallah, c'est lui qui cherche le réveil. C'est pas le réveil qui le réveille. Pourquoi le réveil n'a pas sonné? Et allez, normalement, le réveil est là pour te dire, lève-toi, c'est l'heure. Lui, il dit, pourquoi t'as pas sonné? Regardez, le Wallah, c'est comme cœur, il est vivant. Elle lui dit, tu es malade, j'ai eu pitié pour toi, je voulais que tu te reposes. Il lui a répondu, le repos, c'est au paradis. Vous pensez que c'est pour rien qu'on est là en train de dire, Rahimahullah Ibn Baz? Wallah, c'est pas pour rien. Ils ont donné pour Allah Azza wa Jal, en récompense, leur nom, il est cité partout. Il est cité partout. Wallahi, je vais au Gabon, dans une mosquée perdue, et la personne est en train de parler dans la mosquée, et elle cite le Cheikh Ibn Baz et elle pleure. Elle dit, excusez-moi, quand je cite ce nom, je suis obligé de pleurer. J'ai vu de mes yeux ce que je vous dis. C'est pas pour rien que ces gens-là, Allah Azza wa Jal a mis leur amour dans le cœur des gens. On voit donc que lorsque le cœur est habité par l'amour de quelque chose, plus cet amour est fort, plus ce cœur veut faire, plus le corps va suivre. C'est pas question de fatigue du corps. Il nous dit ensuite, فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ قَادِرًا عَلَيْهَا حَصَّلَهَا وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهَا فَفَعَلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْفَاعِلِ. Donc plus l'envie, plus l'amour du cœur est fort, plus cette envie sera forte, plus le corps va vouloir faire. Que va-t-il se passer? Il est possible que le corps soit physiquement capable de faire cette chose aimée. Alors le corps va le faire. Tout comme il est possible que le corps soit incapable. La personne a envie d'aller à la mosquée, mais Elle est paralysée. Eh bien, si c'est le cas, cette envie et cet amour qu'elle a eu dans le cœur lui donnera la même récompense que la personne qui a fait cette action. Donc, quand tu vois, encore une fois, que tout est dans le cœur. Ça doit être suivi par des actes. Il nous dit, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man da'a ila huda, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu min ghayri an yunqisa min ujurihim shay'a, wa man da'a ila dalalatin, kana alayhi min al-wizri mithlu awzari man ittaba'ahu min ghayri an yunqisa min awzarihim shay'a. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque appelle à une guidée, il appelle les gens à une guidée, il aura en récompense l'égal de toutes les personnes qui le suivront dans cet appel, sans diminuer en rien de leur récompense à eux. Lorsque tu appelles quelqu'un, tu enseignes à quelqu'un surat al-Fatiha, tu enseignes à quelqu'un la façon de prier, une personne, deux, trois, dix, ces dix personnes-là, tu auras les mêmes récompenses que ces dix personnes sans diminuer la leur. Chacune de ces personnes aura sa récompense et toi, tu auras l'équivalent de toutes ces personnes que tu as appelées à un bien. Et ça, même si toi, tu ne peux pas le faire. Tu ne l'as pas fait parce que tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas capable de le faire. Et quiconque appelle à un mal aura le même péché que toutes les personnes qui le suivront, sans rien diminuer de leur péché à elles aussi. Regardez un peu, lorsque tu appelles à un bien, les récompenses que tu gagnes. وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, il y a à Médine des âmes. Le prophète, là, quand il parle, sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec ses compagnons dans le but de propager l'islam. Il a fait un long déplacement contraignant. Il dit, à Médine, de là où ils viennent, pendant qu'il parle, Médine, c'est loin, ils se sont déplacés. Il y a à Médine des hommes. Vous ne parcourez aucun chemin, ni ne traversez aucune vallée sans qu'ils ne soient avec vous. Les compagnons ont dit, alors qu'ils sont à Médine? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'ils sont à Médine. Ils ont été arrêtés à Médine par l'excuse. Ils ont une excuse. Ils veulent venir, ils n'ont pas de moyens de se déplacer. Ils n'ont pas de moyens, ils ont des responsabilités. Il y a des causes qui sont pour eux des réelles excuses. Mais ils ont l'envie dans le cœur. Ils ont l'amour de cette chose. Ils ont l'envie au point où dans certaines histoires, certaines batailles, il y avait des sahaba radiallahu anhum qui venaient et qui suppliaient le prophète de venir. Le prophète leur disait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai rien pour vous. Il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de chameau, il n'y a rien. Ils partaient les larmes qui fondaient de leur visage tellement ils avaient envie de venir, ils ne pouvaient pas. Ces gens-là, ils ont les mêmes récompenses que ceux qui sont partis. Donc qu'est-ce que tu conclus de tout cela? Tu conclus que quand le cœur veut, le corps va faire. S'il ne peut pas faire, il a la même récompense que celui qui a fait. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة فالمحبون للمال وللرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. Ibn Taymiyyah rahimahullah continue et nous dit, et le combat, ce combat, le djihad, consiste à faire tout son possible, à faire tous les efforts possibles pour atteindre ce qui est aimé par Allah et repousser ce qui lui est détesté, subhanahu wa ta'ala. Il dit, et si le serviteur délaisse de cet effort ce qu'il est capable de faire, c'est alors un indice de la faiblesse de son amour pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu délaisses quelque chose que tu es capable de faire en réalité, physiquement, c'est que dans ton cœur, l'amour pour Allah azza wa jal et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une faiblesse. Plus cet amour faiblit, plus tu délaisses. Plus il monte, plus tes actions montent. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات. Et il est connu que très souvent on ne peut atteindre une chose aimée si ce n'est en passant par des choses détestées. Lorsque dans la vie de tous les jours tu veux avoir de l'argent, tu vas aller travailler et peut-être que tu vas faire un travail fatigant, éprouvant. Tu n'aimes pas ce travail. C'est trop fatigant. Mais à la fin, tu cherches quelque chose que tu aimes. N'est-ce pas? Lorsque tu veux aller en vacances, te reposer, tu dois faire de la route. Qui aime faire de la route? Lorsque tu passes par des endroits difficiles, des chemins contraignants, personne n'aime faire ça. Mais tu ne le fais que pour atteindre quelque chose que tu aimes. Donc il est connu à la base que pour atteindre quelque chose que tu aimes, tu dois suivre un chemin qui est contraignant. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Huffatil jannatu bil makare » Le paradis a été entouré de choses détestables. « Wa huffatil naru bil shahawat » Et le feu a été entouré des plaisirs. Pour arriver au paradis, il faut que tu passes par beaucoup de choses que tu vas détester. Tu devras endurer. Tu devras t'abstenir de désobéir à Allah, Azza wa Jal. Quand tu jeûnes, tu t'empêches de faire quelque chose que tu aimes. Mais à la fin, qu'est-ce que tu cherches? La satisfaction d'Allah, Azza wa Jal. Donc, pour atteindre la satisfaction d'Allah, tu passes par un chemin dans lequel tu dois éduquer ton âme. Un chemin que, à la base, tu ne vas pas aimer. Il nous dit que pour atteindre quelque chose d'aimé, on doit passer par le fait de supporter des choses que l'on n'aime pas. Il nous dit ensuite, sawa'un kanat mahabbatan salihatan aw fasida. Sans regarder la chose aimée en elle-même. Ça peut être quelque chose de mauvais, ça peut être quelque chose de bon. La personne qui aime quelque chose de mauvais, la personne dans cette dunya qui aime l'argent illicite, l'argent acquis de manière illicite. Elle va passer aussi par des choses détestables. Elle va prendre des risques, par exemple. Qui aime prendre des risques? Pourquoi la personne prend des risques? Pour le but derrière. Même si ce but derrière est interdit. Et c'est peut-être aussi une bonne chose. Ce que l'on veut dire ici, c'est que pour atteindre quelque chose que l'on aime, peu importe qu'il s'agisse d'une chose qui mérite d'être aimée, ou d'une chose aimée mais qui est mauvaise, il faut passer par un chemin et supporter les choses qui sont détestables. Il nous dit, quant à ceux qui aiment l'argent, le pouvoir, les images, vous souvenez, ceux qui aiment des gens, ils ne peuvent atteindre leur but qu'en passant par des nuisances dans cette vie-là, sans compter les nuisances qui les attendent le jour dernier. Ils auront des nuisances ici, des nuisances dans l'au-delà. Les choses que tu aimes, si elles sont illicites, si la manière d'y arriver est illicite, tu vas te fatiguer pour y arriver, tu vas affronter des nuisances, et à la fin, tu vas rencontrer des nuisances le jour dernier. فَالْمُحِبُّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ مَا يَرَى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. Pour vous résumer ce qu'il vient de dire. Il vient de dire, celui qui aime Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'est pas capable de supporter les difficultés pour arriver à son but, comme elles sont supportées par ceux qui aiment des choses mauvaises, et pourtant, ces gens-là, qui aiment des choses mauvaises, ils patientent dans le faux. Ils supportent pour y arriver. Toi, tu es dans le vrai. Tu n'arrives pas à patienter sur des difficultés. Alors que celui qui est dans le faux, pour atteindre son faux, pour atteindre son mal, pour atteindre cette chose aimée, il patiente. On continuera la suite. Prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu A'lam wa sallallahu wa sallam. Baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك